Salut, c'est Benoît, et aujourd'hui je vous emmène au Cuve de Fauve, rue de Charonne à Paris. C'est lors de mon déplacement pour être jury au concours général agricole que j'en ai profité pour rendre visite à Antoine, cofondateur de la brasserie Fauve avec son ami Cyprien. Nous avions déjà eu l'occasion d'échanger lors d'un live sur la Caisse à outils TV, mais aussi autour d'un verre au Strasbourg Craft Beer Festival. Cet épisode, c'est surtout l'occasion pour lui de prendre le temps de faire le point sur ses 3 années passées, de se rendre compte du chemin parcouru, mais également de discuter de l'orientation de la brasserie pour les années à venir. Si vous ne connaissez pas cette brasserie, foncez jeter un œil à leur site pour découvrir leur univers marqué par l'amour de l'art et la créativité de leurs brassins. Encore un grand merci aux tipeurs qui nous ont par exemple permis de faire ce déplacement à Paris. Je voulais remercier aussi Florian pour l'hébergement sur place. Si vous souhaitez rencontrer l'équipe de la Brasserie Fauve, ce sera possible lors du Lyon Bière Festival les 2 et 3 avril à la Sucrière. Je ferai également le déplacement le dimanche. Donc si vous me croisez au détour d'une allée, n'hésitez pas à me payer un verre. J'aurai forcément mon micro avec moi. Si vous avez des envies particulières ou des idées à me proposer, n'hésitez pas à le faire, les coordonnées sont dans le détail de cet épisode. Bienvenue dans Bière et Moustache, le podcast qui parle de bière, mais pas que. Aujourd'hui, je suis à la brasserie Fauve. Alors, c'est plus qu'une brasserie, c'est un brewpub et je suis avec Antoine, un des deux cofondateurs de Fauve. Bah écoute, je vais te laisser te présenter, Antoine.
Ouais, alors donc moi, je suis donc Antoine. J'ai monté la microbrasserie Fauve avec un vieil ami à moi qui s'appelle Cyprien. Donc pour nous différencier, Cyprien, c'est le barbu, si vous êtes sur notre compte Insta ou ailleurs. Moi, je suis plutôt l'imberbe, donc c'est Cyprien qui s'occupe de toute la partie brassage de bière production. Je m'occupe un petit peu du reste. Nous, on s'est rencontrés il y a plus de 15 ans à l'école. On s'est retrouvés autour d'une passion commune qui était la bière artisanale. Quand moi, j'habitais à Londres et que j'ai découvert des bières exceptionnelles, en sachant que les pays anglo-saxons avaient vraiment beaucoup d'années d'avance par rapport à la France. Cyprien, à l'époque, lui, était devenu déjà brasseur de bière professionnelle dans des brasseries en Irlande, en Écosse, des brasseries de différentes tailles, très grosses brasseries. Je crois qu'il a fait des brassins de 1000 hectos. Enfin, donc là, c'était pas très rigolo. Il appuyait beaucoup sur des boutons. Et puis ensuite, il a bossé dans un brewpub, quelque chose d'assez similaire à ce qu'on fait maintenant. Et donc, pour présenter Fauve et quel est le projet Fauve, c'est un projet un petit peu à deux jambes, avec d'un côté un brewpub à Paris. C'est comme ça que tout a commencé. On a ouvert en juin 2019, donc l'idée c'est au sein d'un même lieu d'avoir une microbrasserie artisanale, mais aussi un bar à bière et un restaurant. Donc tout ça c'est dans le 11e arrondissement sur la rue de Charonne pour celles et ceux qui veulent venir nous voir. Et en plus de ça, on est aussi une microbrasserie un peu plus traditionnelle, c'est-à-dire qu'on produit de la bière, on la met dans des fûts, dans des canettes, et on la vend un petit peu partout en France, à l'étranger, soit en direct, soit via des distributeurs. Notre métier c'est vraiment de faire de la bière. Il se trouve qu'on a décidé d'avoir une approche un petit peu différente en lançant un brewpub, un lieu de vie hyper convivial où les gens peuvent venir déguster les bières directement sur le lieu de production. Et donc ce lieu, c'est vraiment le meilleur moyen pour nous de présenter nos bières, de les servir dans les meilleures conditions et de faire vivre une expérience hyper chouette à nos clients, puisqu'ils peuvent venir déguster les bières au milieu des cuves, en touchant les cuves dans lesquelles la bière a été faite. Donc voilà, je vous invite à venir découvrir nos bières à Paris pour celles et ceux qui peuvent. Et puis sinon, on est maintenant un petit peu distribué partout en France. Donc vous devrez les trouver chez vos bons cavistes.
Alors moi, je connais pas très bien Paris, mais il y a beaucoup de brewpub sur Paris où c'est comme, je dirais, partout en France où c'est pas très développé encore.
Alors c'est pas très développé, mais il y en a. On n'est pas été le premier brewpub de Paris. Peut-être par rapport à d'autres villes, mais le problème c'est que Paris coûte très cher, donc le moins d'un mètre carré va coûter très cher, et donc c'est assez compliqué d'avoir un lieu d'une ampleur assez importante. Et malheureusement, pour mettre une microbrasserie au sein d'un bar, tout de suite ça prend beaucoup de place. On a décidé, nous, en revanche, par rapport aux autres brasseries, de faire vivre une expérience qui soit la plus authentique possible. Donc à la différence d'autres brewpubs, notre microbrasserie est vraiment en plein milieu, c'est impossible de la louper. Tous les clients qui rentrent dans le bistrot, tout de suite ce qu'ils voient c'est des grandes cuves en inox de 3 mètres de haut, hyper imposantes en plein milieu. En plus de voir les 16 tireuses, qui est assez impressionnant quand t'es pas spécialement un geek de la craft, voir 16 tireuses c'est un peu surprenant. Puis même d'ailleurs depuis l'extérieur on a mis des grandes baies vitrées, et donc en fait quand il y a du passage dans la rue, tout de suite les gens sont attirés, regardent ce qui se passe, ils voient l'intérieur des grandes cuves, et puis encore une fois, je pense que les gens sont de plus en plus sensibles aux produits artisanaux, aux produits locaux, et donc on s'inscrit parfaitement là-dedans. C'est assez rigolo parce qu'on a autant une clientèle qui nous connaît maintenant, parce qu'on a acquis un peu de notoriété dans le monde de la craft, c'est des gens qui font une heure de métro pour venir boire une bière chez nous, mais on a aussi une clientèle de quartier qui connaissait rien à la bière quand on a ouvert, et maintenant on les a un peu convertis, et ils viennent chez nous et ils disent bonjour à personne, ils commandent des pintes de sour ou des pintes d'Imperial Stout, quoi. Donc ça c'est drôle d'en arriver là comme ça, et on est content, et dans une optique politique de faire découvrir la bière craft à un maximum de gens, bah, le fait d'avoir un lieu comme ça très ouvert, avec des tarifs qui sont abordables pour Paris, surtout pour des bières d'une intensité comme celle qu'on fait nous, bah, c'est ce qui nous permet d'avoir une clientèle assez récurrente. Et surtout des gens qui sont contents de faire découvrir un lieu un peu original à leurs amis. Ça fait un peu effet boule de neige. Tu vois. Quand t'as un groupe de 10, bah, y en a toujours un ou deux qui reviennent avec un autre groupe. Et voilà. Donc ça marche bien.
Et cette salle à brasser qui est vraiment au milieu du brewpub, c'est un élément de décoration et puis c'est aussi dans une démarche un peu de vraiment de transparence par rapport à comment est fabriqué le produit. Et...
Ouais, complètement. Une de nos valeurs à laquelle on attache beaucoup d'importance, c'est la transparence, effectivement. Comme je te le disais, les gens peuvent se balader au milieu de la microbrasserie à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et on montre tout. On a notre stock de grains, on a notre petit moulin là où on concasse les céréales. On a notre salle de brassage, nos fermenteurs, notre petit hop-gun, etc. Et ça crée des interactions assez chouettes parce que, évidemment, quand les gens arrivent, ils connaissent pas, ils posent tout de suite des questions. On n'hésite pas à leur faire visiter la microbrasserie. On a de la chance parce que c'est pas très grand, donc en fait la visite elle prend 5 minutes, mais en 5 minutes les gens voient les ingrédients, voient les cuves, comprennent comment ça se passe entre la partie brassage et la partie fermentation, et ça fait des histoires cool à raconter, et résultat les gens ils peuvent rentrer chez eux, ils auront goûté des bières hyper originales, et en plus de ça ils savent comment on fait la bière, quoi. On parle beaucoup des ingrédients de la bière également, et on a une petite houblonnière aussi, pas très loin d'ici, à 500 mètres, et donc nous on est pas mal spécialisé sur les bières houblonnées. On fait beaucoup d'IPA et tous les dérivés d'IPA. Et donc, on parle constamment de houblon à notre clientèle, mais en fait, personne ne sait vraiment ce que c'est, le houblon, quoi. Et donc, maintenant, on a la possibilité de leur offrir l'opportunité, une fois par an, de venir récolter les fleurs de houblon avec nous. Et même s'ils le souhaitent, participer au brassage dans la foulée. Donc, on fait une petite bière de récolte. On a quelques plants de cascade. C'est pas gigantesque, mais ça nous permet de faire une bière jusqu'à présent. Maintenant que notre houblonnière arrive à maturité, peut-être qu'on arrivera à faire deux brassins avec ce houblon. Et c'est surtout une opportunité de faire un petit peu d'éducation autour des ingrédients de la bière.
Vous avez récemment obtenu le label fabriqué à Paris. Pareil, c'est toujours dans cette démarche de produire sur place.
Exactement. Donc ça, c'est un label qui est à l'initiative de la mairie de Paris. L'idée, c'est Paris pousse pour de l'artisanat local. Essayer de refaire venir de l'artisanat à l'intérieur de Paris. Et donc, étant donné que nous, on brasse tout, on fait tous nos produits sur place ici, on s'inscrivait complètement dans cette démarche-là. On a postulé, on a eu la chance d'être sélectionné. Et donc, résultat, la mairie de Paris peut nous mettre un petit peu en avance sur des petits marchés pendant Noël, par exemple, pour qu'on présente nos produits, etc. Et donc, c'est cool qu'ils fassent ça. Ils nous filent un petit coup de main. Et puis, je pense que les gens, encore une fois, sont beaucoup plus sensibles à un produit local, artisanal, avec des visages derrière un produit, plutôt que les gros produits industriels avec un petit peu moins d'authenticité.
Et donc le brewpub, l'ouverture, c'est 2019?
Ouais, alors on a ouvert en juin 2019. Super période, ça a bien marché au début. Nous, on n'était pas spécialement restaurateurs avec Cyprien. Notre métier, encore une fois, c'est vraiment de faire de la bière. Donc on a dû apprendre pas mal de choses. Et finalement, on a mis en place les process et on était très contents du lancement. Il se trouve que malheureusement, quelques mois plus tard, on a eu le premier confinement, donc en mars 2020. Donc c'est arrivé en fait assez vite. Et paradoxalement, pour nous, ça a été un sacré tremplin, puisque même si le restaurant était fermé ici, fermeture administrative, hein, comme tous les restos trans, la microbrasserie, elle pouvait continuer de tourner. Donc c'est là qu'on a commencé à faire nos petites canettes. Alors on n'avait pas de ligne de mise en canette ici sur place à Paris, donc on a travaillé avec un sous-traitant qui est venu ici sur place. Ils arrivent le matin à 6h, le soir, ils ont descendu les 6 fermenteurs et on se retrouve avec 4 palettes de canettes. Et c'est là que les bières fauves, pour la première fois, ont été vendues ailleurs que dans le brewpub. Les retours ont été très bons, assez rapidement. À tel point que Groubir, un distributeur basé à Montpellier, nous a fait confiance et nous a permis d'être distribué un petit peu partout en France. Et puis ensuite, ça a très bien pris, une première release, une deuxième release. Et c'est là qu'on s'est dit, on ne va jamais avoir suffisamment de capacité de production pour continuer. Donc il va falloir qu'on change un petit peu de dimension et qu'on lance une deuxième microbrasserie. Et c'est là qu'on a commencé à travailler sur le projet qui aboutit sur le lancement de notre microbrasserie à Montpellier. Qui est une microbrasserie de production. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de resto. C'est vraiment un entrepôt avec de la prod. C'est pour ça que c'est un point important. On a beaucoup parlé de Paris jusqu'à présent, mais on se définit absolument pas comme une brasserie parisienne. Cyprien et moi, on n'est pas parisiens. Et donc, le fait qu'on soit maintenant à Montpellier, ça nous a un petit peu sorti cette étiquette de parisien qui ne nous allait pas vraiment. Donc voilà, donc maintenant, Fauve, c'est entre Paris et Montpellier. À Montpellier, on fait vraiment les mêmes bières qu'ici. C'est-à-dire, on le voit vraiment comme un projet unique. C'est la même équipe. On réfléchit au recettes ensemble, les process de prod sont les mêmes. Je vais même aller plus loin, on a acheté strictement la même microbrasserie à Montpellier que celle qu'on a à Paris. La seule différence, c'est qu'elle est deux fois plus grosse. Donc ici, on a une 5 hectos et à Montpellier, on a une 10 hectos. Puis évidemment, on a la capacité de faire des doubles brassins à Montpellier, donc on a des cuves un petit peu plus grosses, des fermenteurs de 10, 20 et bientôt 40 hectos. Et surtout, une des raisons pour lesquelles on a décidé d'aller à Montpellier, c'est parce qu'on a une grosse envie. Dada, c'est vraiment les bières élevées en barrique. Et donc, on a autant on n'a pas un entrepôt qui est hyper sexy, mais pour le coup, on a mis un petit peu d'argent dans un chai qui est thermorégulé, avec gestion de l'humidité, qui nous permet de faire un élevage de barrique dans de bonnes conditions. Et donc, on a maintenant une cinquantaine de barriques. Et alors, c'est le début, c'est malheureusement un projet qui prend du temps, mais c'est les bières qu'on aime boire avec Cyprien et qu'on a envie de faire découvrir un maximum de gens. Donc, les gens nous connaissent aujourd'hui beaucoup pour les trois familles de bières qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire les bières houblonnées, les bières acides aux fruits et puis ce qu'on appelle les bières à haute densité, donc les Imperial Stout, les Barley Wine. Mais bientôt, il y aura une nouvelle catégorie qui va être les bières élevées en barrique.
Pour les bières en barrique, vous resterez sur le même type de conditionnement? On va rester sur de la canette ou alors vous allez passer sur de la bouteille?
Alors, c'est une très bonne question. On n'a pas encore totalement réfléchi à... Enfin, on réfléchit, on a beaucoup de débats en ce moment à ce sujet. Notre première bière a été mise en barrique il y a un petit peu moins d'un an et je pense qu'on va encore attendre un petit peu de temps avant de les conditionner. On fera probablement plutôt de la bouteille. Autant sur les IPA, je pense qu'il n'y a vraiment aucun débat. Il faut vraiment qu'on les mette en canette. Sur les bières à plus haute densité, on peut se permettre de les mettre en bouteille. Et donc, voilà. Suite au prochain numéro, je ne sais pas exactement quand ce sera. Mais...
Parce que c'est vrai que récemment, moi, j'avais dégusté de la bière barriquée et en canette. Et en fait, j'avais pas souvenir d'en avoir déjà bu ou déjà vu souvent.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette habitude de plutôt mettre en bouteille quand c'est du barriqué, mais après, il y a des brasseries qui le mettent en canette. Et puis,
Ouais, alors, le débat est revenu parce qu'on fait une collaboration avec une brasserie néerlandaise qui s'appelle Frontal, peut-être que tu connais, et il se trouve qu'ils nous ont envoyé très gentiment un petit carton pour qu'on déguste leur bière. Et dedans, il y avait des canettes d'Imperial Stout barriquées, et donc c'est là qu'on s'est dit, oh là là, il faut qu'on prenne une décision, on n'a toujours pas pris de décision. C'est le genre de décision qu'on repousse, et résultat, quand on prendra la décision, évidemment, on sera complètement à la bourre, mais voilà. Donc on a dégusté des canettes, ouais, des canettes d'Imperial Stout Barrel Edge, et c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. J'ai l'impression que toutes les brasseries qu'on connaît, en fait, le utilisent plutôt de la bouteille pour ça. Donc voilà, je pense qu'on fera plutôt de la bouteille.
Oui, après ça permet aussi de proposer des formats un peu plus 75, tout ça.
Mais voilà, c'est la prochaine question. C'est est-ce qu'on fait que du 33, est-ce qu'on fait du 75, est-ce qu'on fait du 37,5? Voilà, c'est les trucs qui me font pas dormir le soir.
C'est des choses, tu te dis, en vrai, tu peux changer en cours de route, mais c'est toujours délicat quand tu as commencé sur un format d'évoluer derrière, parce que tu as quand même, ça permet de parler d'une chose qui est importante aussi chez Fauve, parce que le nom de la brasserie, c'est pas rapport à l'animal, il n'y a pas des tigres partout.
Effectivement.
Mais ça, il y a vraiment une identité graphique qui est très présente et hyper importante chez vous. Et je pense que changer de format de contenant, ça peut être perturbant ou en tout cas,
complètement.
Tu préfères faire le bon choix, quoi.
Alors, effectivement, je pense que c'est là que tu voulais en venir, on a une dimension artistique qui est très forte chez Fauve. Ce qu'on se dit vis-à-vis de la bouteille, c'est qu'on peut quand même conserver cette dimension artistique, même si on fait des bouteilles. Je repense récemment aux dernières bouteilles de Simon, d'Ammonite, voilà, des petits coups de pinceau comme ça, c'est très beau. Et il arrive à faire sur des jolies bouteilles des petites œuvres d'art, et ça se fait beaucoup dans le domaine du vin nature également, où en fait de plus en plus les bouteilles sont très colorées. Donc ça, je pense qu'on y arrivera, mais là où tu as raison, c'est qu'il faut surtout pas qu'on perde cette partie de notre projet, de notre ADN, qui est cette dimension artistique. Alors Cyprien va encore me défoncer parce qu'il ne faut pas que je parle d'ADN. En fait, lui, il est biologiste et en l'occurrence, ce n'est pas notre ADN, mais ça fait partie du projet depuis le début. Fauve, ça s'inspire du fauvisme. Donc effectivement, il n'y a pas des tigres et des panthères et des léopards partout. En revanche, on collabore avec des artistes. L'idée, c'est très simple, c'est dès qu'on lance une nouvelle bière, l'illustration de la canette est effectuée par un ou une artiste différente. Donc je regardais hier, on a lancé plus de 100 bières depuis un peu plus de 2 ans. Depuis le début de Fauve, et toutes les bières qui ont été conditionnées en canette, on a travaillé avec un artiste différent à chaque fois, et donc c'est génial parce que ça crée des synergies de réseau hyper cool entre notre réseau et la communauté qui suivent les artistes. Et donc on va même un petit peu plus loin parce que c'est pas que des illus, on fait régulièrement, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, ici à Paris, une soirée qui s'appelle la soirée Beer and Art, où en fait les artistes avec lesquels on collabore peuvent venir ici au Brewpub, et on leur met à disposition l'établissement qui devient une sorte de galerie galeries et ils peuvent mettre des toiles un peu partout dans le bistrot pour présenter leurs œuvres. C'est à ce moment-là qu'on fait aussi les releases des nouvelles bières. Et donc en fait, il y a des gens qui viennent pour Fauve et pour goûter la dernière double IPA Fauve hyper chouette avec des houblons un peu sexy. Mais il y a aussi des gens qui viennent parce qu'ils sont invités par leur pote artiste ou alors parce qu'ils veulent rencontrer l'artiste. Et donc en général, on fait un petit peu de, on met un petit peu de musique. Et c'est les meilleures soirées parce qu'il y a une super ambiance. Il y a des gens un peu d'horizons différents qui viennent. De temps en temps, et on a aussi une fresque murale à l'extérieur. Et donc, on donne aussi l'opportunité aux artistes qui le souhaitent de travailler sur cette fresque qui est par nature éphémère. Tous les deux mois, on peint cette fresque en blanc et puis un nouvel artiste arrive et repeint cette fresque comme il ou elle le souhaite. Donc voilà, c'est assez cool. J'espère que les gens nous connaissent pour la qualité de nos bières parce que c'est quand même ça le plus important et c'est là qu'on met la majorité de nos efforts. Mais c'est vrai qu'après, quand t'arrives chez un caviste et que t'es perdu parce que t'as tout d'un coup 300 bouteilles ou canettes devant toi et que tu reconnais une marque, et si on a réussi à établir ce lien de confiance avec les gens qui boivent nos bières, ben en fait c'est génial parce qu'ils arrivent chez le caviste, ils ont 5 minutes pour prendre une décision, bon bah ils voient Fauve, j'ai reconnu avec toutes ces petites couleurs, bon bah allez je prends la canette et puis sujet suivant quoi. Donc ça c'est vraiment le truc sur lequel on bosse le plus en ce moment, c'est d'arriver à établir ce lien de confiance avec les passionnés de beer craft.
C'est quelque part presque paradoxal, vous avez des étiquettes qui changent tout le temps avec différents artistes, mais les canettes Fauve on les reconnaît tout de suite alors que le design est tout le temps différent, donc c'est marrant comme vous avez réussi à créer une identité en fait par la diversité.
Ouais, alors on fait un petit travail de direction artistique avec les artistes. Enfin, en vrai, c'est hyper simple. On choisit des artistes parce qu'on aime ce qu'ils font. C'était un petit peu différent au début parce qu'on a dû aller à la chasse aux artistes qu'on avait un petit peu moins de notoriété. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Les artistes voient hyper facilement sur Instagram ce qu'on fait. Et en fait, maintenant, on a des gens qui postulent toutes les semaines. Donc, on peut se permettre de piocher et d'aller vraiment rencontrer des artistes parce qu'on voit leur travail et c'est là vraiment génial. On sent que ça peut vraiment coller. En général, on les fait venir ici au Brew Pub. Alors c'est facile pour les Parisiens, c'est évidemment plus compliqué pour d'autres, mais ça permet aussi de créer une relation humaine qui est hyper importante. Enfin, on fait de la bière, quoi, on vend pas des radiateurs, donc c'est sûr que l'humain c'est hyper important. Et donc si on peut les faire venir ici et discuter un petit peu avec eux et comprendre ce qu'ils veulent faire, c'est super cool. Et puis résultat, on devient pote. Ensuite, ils nous recommandent d'autres artistes à eux parce qu'ils voient qu'on est sympa et qu'on joue vraiment le jeu sur les réseaux sociaux. On les met beaucoup en avant et donc aussi ils y gagnent à faire des partenariats comme ça. Et voilà, je crois qu'on a bossé avec 50 artistes ou quelque chose comme ça, il faudrait que je les compte. On a une petite page pour chacun des artistes avec lesquels on bosse sur notre site internet. Donc voilà, c'est trop cool et on va continuer de cette manière dans le futur. C'est pas un truc qui changera.
2019, création du Brew Pub. 2021, nouvelle unité de brassage à Montpellier.
Ouais.
Alors, le choix de Montpellier, c'est...
Ouais, alors plusieurs raisons. Il y avait la partie élevage de bière en barrique, qui est un truc très chouette pour nous. C'est une grande région vitivinicole. Et donc, je suis allé à Montpellier la semaine dernière, on a récupéré 18 barriques. Tu vois, c'est trop bien. T'arrives avec, tu rencontres le vigneron et puis t'as 18 barriques qui arrivent chez toi. Donc c'est...
Vous faites du sourçage directement chez les vignerons, passez pas par un broker.
Alors, on fait des deux. Donc, si on doit récupérer une barrique de Bourbon, je connais pas encore beaucoup de patrons de distilleries à l'étranger. Donc là, effectivement, on passe par des brokers. Mais pour tout ce qui est barrique de vin, c'est plus facile de le faire en direct. Ensuite, pour Montpellier, on fait beaucoup de bières aux fruits. Mais en ce moment, quand on fait une bière aux fruits, c'est quand même principalement des purées de fruits que beaucoup de brasseries utilisent. Et donc, il y a peut-être un petit peu moins de typicité que si on utilisait des fruits, des vergers du coin. Et il se trouve qu'aux alentours de Montpellier, y a des super fruits. Et donc, on aimerait aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on fait à l'heure actuelle où... Je sais pas, une bière aux fruits de Popin, c'est peut-être en fait les mêmes fruits qu'on utilise chez nous. Donc il y a moins d'unicité. On travaillera en local avec des vergers du coin dès qu'on pourra le faire. Ensuite, l'idée de pouvoir toucher plutôt le nord de la France avec Paris et le sud de la France avec Montpellier, ce qui fait qu'en fait on se répartit un petit peu les rôles de manière géographique. Puis il se trouve que Cyprien avait des attaches aussi dans le coin et résultat c'était tout bénef. Donc Cyprien maintenant est installé à Montpellier. Moi j'habite à Paris. Je vais tous les 15 jours à Montpellier. Cyprien vient de temps en temps ici aussi, et ça fonctionne super bien. Enfin, puis surtout, on a une équipe incroyable autour de nous, et donc résultat, maintenant, ça tourne super bien, même si en soi, je suis pas dans le même bureau que Cyprien tout le temps, quoi. Et puis, je pense qu'il a... Il a gagné, quoi. Il est au soleil alors que moi, je me tape la grisaille parisienne, quoi.
Finalement, le confinement, c'est ce qui vous a poussé à faire de la canette, et c'est ce qui a vraiment poussé la brasserie vers peut-être quelque chose que vous aviez prévu au départ, mais peut-être pas aussi rapidement. Moi, je trouve que c'est un bon exemple des brasseries qui ont su tirer parti, sur se réinventer, pas forcément, mais en vrai, quelque part, c'est ça. Et vous avez su tirer avantage de la situation et dire, bon, il y a cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux. L'idée de tout de suite mettre en canette et faire de, et vendre des canettes comme ça, c'est venu assez rapidement, ou il y a un moment où vous vous êtes dit merde, maintenant ça ferme.
Bah, honnêtement, tout est allé super vite. Hein. Enfin, rappelle-toi, avant le premier confinement, je sais pas, 15 jours avant, on n'avait pas du tout imaginé que l'intégralité de l'activité du pays allait s'arrêter, quoi, du jour au lendemain, et que tu allais te retrouver cloîtré chez toi. Quoi. Donc non, en plus d'être des brasseurs de bière, on est aussi un peu des entrepreneurs, et donc je pense qu'il faut être résilient, tu disais se réinventer, ouais c'est ça, et arriver à trouver des solutions. Donc à un moment, on n'avait vraiment pas le choix. Enfin, je me plains pas, parce que peut-être par rapport à d'autres pays, on a été aidé par l'État, hein, on va pas se mentir, avec tous les dispositifs d'aide du chômage partiel et des PGE, ça fait qu'en fait, on a juste réussi à exister. Et donc nous, heureusement, le brewpub avait plutôt bien marché au début, et donc on avait réussi à mettre un petit peu d'argent de côté, ce qui nous a permis de lancer la microbrasserie à Mogio. Donc résultat, ouais, tout est allé très vite. On prend une décision assez rapidement sur un coup de tête. On se dit, bah, est-ce que c'est pas le moment de faire des canettes? 15 jours plus tard, bah, t'as des canettes qui sont prêtes. Et puis en fait, bah, les gens les achètent, les gens sont contents. On a été énormément supporté par toute la clientèle locale qui est venue nous acheter des canettes. Et puis après, c'était pas que la clientèle locale, c'était un petit peu plus loin. Et puis en fait, tu fais un deuxième batch. Ça marche encore bien, finalement t'es distribué, puis après ça avance quoi. Lancer une microbrasserie, c'est une décision qui est importante hein, dans la vie d'une société, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Tu te dis que si ça marche pas, comment ça va faire? Je me souviens, au début on se disait, mais tout d'un coup on se retrouvait avec un fermenteur de 20 hectos, mais comment on va vendre 2000 litres de bière quoi? Puis en fait maintenant on en est à rajouter 3 fermenteurs de 40 hectos, parce qu'on produit pas du tout assez et... On vend quasiment tout avant même le conditionnement. Donc ouais, c'est assez marrant de cet exercice que tu me fais faire à l'instant, parce que c'est un truc que on prend pas suffisamment le temps de regarder ce qui s'est passé sur les 12 derniers mois, mais tout va super vite. Et maintenant, je pense qu'on a atteint une taille dont on est vraiment satisfait. Comme je disais, il y a 3 nouvelles cuves de 40 hectos qui arrivent dans un mois, donc ça va nous faire encore changer un petit peu de dimension. Il va falloir qu'on trouve de nouveaux clients. Toujours qu'on se réinvente au niveau des produits qu'on fait pour arriver à écrire des nouvelles histoires. Tous les mois, tu vois, on sort entre 4 et 6 bières, il faut qu'on lance des trucs un peu nouveaux.
Est-ce que j'allais dire, il y a beaucoup de releases.
Ouais. C'est juste une NEIPA Citra Mosaïque, enfin, je veux dire, tout le monde sait ça. Donc à un moment, il faut qu'on trouve à chaque fois une nouvelle technologie de houblon, travailler des houblons qu'on voit peut-être pas trop. Donc on va faire une NEIPA houblon noble. Donc ça, c'est un truc, j'en dis pas plus, mais ça va bientôt sortir. Enfin, l'idée, c'est d'arriver à se dire, notre clientèle de gens éduqués à la bière craft, ils sont contents d'avoir des nouveautés, d'avoir des choses qu'ils ont jamais goûtées. Voilà, une NEIPA au SAS, je sais pas si j'en ai pas vu beaucoup, donc peut-être que les gens le sauront pour ça. Et donc c'est une gymnastique intellectuelle qui est assez... assez grisante, enfin, tu vois, tous les mois, faut vraiment qu'on se dise, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pas qu'on s'emmerde nous et qu'on fasse juste une énième IPA avec 3 houblons différents. Et c'est ça aussi qui fait que on a une équipe qui est contente, parce qu'on on arrive toujours à se réinventer et on n'a pas de gamme permanente, on fait que des nouveautés. Un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup en ce moment, c'est faire des collaborations, et donc on a fait une collab avec une brasserie allemande qui s'appelle Blechbrut. J'ai parlé de Frontal. On va faire une collab avec une brasserie à Barcelone. Enfin, puis évidemment, pas mal de collabs avec des brasseries françaises cette année. Pour passer des bons moments avec des gens qui sont devenus des potes et apprendre d'eux des nouvelles techniques de brassage, des nouvelles techniques de houblonnage, etc. pour grandir et j'espère nous améliorer sur les recettes qu'on fait ici.
L'an dernier, vous étiez présent sur quelques événements. Enfin, on s'était croisé au Strasbourg Festival. Ouais. Vous en avez fait combien l'an dernier? Est-ce que c'est un exercice qui vous plaît et que vous allez réitérer? Est-ce que, tu vois, sur 2022, vous avez déjà des festivals où vous savez que vous allez être présent ou certains où vous aimeriez bien aller?
Ouais, complètement. Alors, c'est un exercice qu'on adore. Nous, on est, tu vois, en plus d'être une microbrasserie, on est aussi un bar, donc on est aussi un lieu de vie. Et donc, être derrière des tireuses et présenter nos bières, c'est un truc qu'on sait faire et qu'on adore faire. Et donc, on le fait tous les jours ici à Paris. Et donc là, maintenant, pouvoir faire exactement la même chose, juste dans un format un petit peu différent aux quatre coins de la France, c'est trop cool. Donc, c'est vraiment un moyen pour nous de présenter notre marque à une clientèle qui nous connaît moins ou qui nous connaît pas. Donc, on le fait autant qu'on peut. Donc, on est toujours hyper content quand on reçoit un email, un coup de fil d'invitation à un nouveau festival. C'est aussi un super moyen pour nos brasseurs et nos brasseuses de sortir de l'outil de production, et donc on envoie toujours un ou deux brasseurs brasseuses sur les événements. Donc on s'était vu à Strasbourg, je crois, l'année dernière. Tu vois, il y avait Rémi, qui est un de nos brasseurs à Montpellier, qui était là parce qu'il avait des amis, et puis bah, c'est trop cool, enfin, je veux dire, il parle des bières mieux que moi. Et puis c'est, ça permet aussi lui d'aller parler à d'autres brasseurs, par les prods, par les recettes. Et en fait, tout le monde en sort grandi. Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'entraide au sein de la communauté des microbrasseries en France, donc on a beaucoup de chance là-dessus. L'année dernière, c'était particulier parce que c'était un sacré marathon, puisque tous les festivals ont lieu de septembre à je sais pas, octobre-novembre. Ouais. Donc quasiment tous les week-ends, on se retrouvait à faire 4 jours par-ci, 4 jours par-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un festival, c'est pas que le dernier week-end, c'est aussi des TTO avant. Donc typiquement, pour le Strasbourg Craft Fest, on avait fait un TTO à Mulhouse, un TTO à Strasbourg, et ensuite 2 jours, enfin voilà, c'est épuisant quoi. Mais bon, c'est notre métier, et on adore le faire. Et cette année, ce qui est bien, c'est que c'est un petit peu plus réparti tout au long de l'année. Donc le premier festival était en Saint-Malo, qui arrive bientôt, et puis on a la chance d'être invité maintenant dans pas mal de festivals, et donc bah, ceux qui sont confirmés, tu me demandais la liste, mais... On était invités à Lille, à Strasbourg, à Montpellier, évidemment, à Lyon cette année pour la première fois. On est invité à Bordeaux, j'espère qu'on sera réinvité à Nantes, Marseille, voilà, bon, les quatre coins de la France. Puis il se trouve que je suis aussi dans l'organisation du Paris Beer Festival. Donc voilà, big up à toute l'équipe qui était avec moi hier soir ici pour préparer ce festival qui aura lieu en mai, qui va être incroyable à Grand Contrôle. Et j'espère que, bah, qu'il y aura autant de monde que l'année dernière, et puis surtout sera dans des conditions où le mot convivialité, je pense, sera beaucoup plus présent que l'année dernière quand on avait des masques et qu'il y avait beaucoup de restrictions. Et donc on vous prépare plein de belles choses, autant sur le grand final que tous les festivals qui auront lieu pendant toute la semaine à la capitale. Big up à toute l'équipe du Paris Beer Festival.
Et là du coup, avec une grosse phase, je dirais hyper intense, est-ce que maintenant t'as pas aussi un peu envie de savourer une espèce de vitesse de croisière entre guillemets, parce que je pense que vous allez pas rouvrir une brasserie dans les mois qui viennent?
Non, ça je te le confirme. Non, t'as complètement raison. Alors vitesse de croisière, moi ce qui me plaît dans mon métier aujourd'hui, c'est de sortir des nouvelles bières un peu folles. Donc toute la partie recette, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, la partie créativité. Donc en fait, dans le coin de ma tête, et quand je dis dans le coin de ma tête, c'est toujours un exercice qui est collégial, c'est d'arriver à fédérer toute l'équipe autour des nouvelles recettes qu'on va sortir. Donc si Élise, notre brasseuse à Moggio, a une super idée de recette, ben on en parle et on essaie de les sortir. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment pas envie de laisser de côté, parce que c'est franchement quelque chose qui est vivifiant et qui fait que je m'éclate aujourd'hui. On a aussi encore énormément d'apprentissage à faire, notamment sur la partie élevage en barrique. On discute avec Simon d'Ammonite. Il a énormément de choses à nous apprendre, et parce qu'il en fait depuis longtemps. Et nous, on a envie d'arriver et mettre notre patte sur des styles de bière qu'on adore boire avec Cyprien et qu'on a envie de présenter aux gens. Et donc là, c'est compliqué de se reposer parce que tu as l'impression que le champ des possibles est juste gigantesque. Donc on fait beaucoup de dégustations pour arriver à identifier les styles de bière qu'on veut faire, au-delà de ce qu'on aime depuis des années. Je te montrais les jolies bouteilles de 75 qu'il y a juste au-dessus de ta tête et qu'on garde précieusement ici au bureau. On s'inspire de toutes ces brasseries-là, et donc ça fait que y a du taf. On lit tous les bouquins possibles et inimaginables, et ensuite on fait des tests, et il y a des trucs qu'on va devoir mettre à l'égout, c'est sûr, et parce que ce sera pas bon, mais au moins on aura tenté des choses. Et voilà. Et après, sur la partie bière houblonnée, c'est plutôt des ajustements. Donc en fait, on se dit on a fait notre dernière double NEIPA, tu vois, on regarde une dizaine de paramètres. Sur ces 10 paramètres, il y en a 7 où on est satisfait, il y en a 3 où on pense qu'il faut qu'on améliore quelque chose. Donc est-ce que c'est au niveau du traitement de l'eau, est-ce que c'est au niveau de nos techniques de houblonnage, est-ce que c'est, j'en sais rien, la densité finale, la quantité de sucre résiduel qu'il peut avoir. Il y a en fait toujours des petits ajustements qui fait qu'en fait, d'une recette à l'autre ou d'un batch à l'autre, on va toujours améliorer la recette précédente. Donc en fait, on s'arrête un peu jamais quoi. Mais bon, c'est cool, hein, c'est vivifiant, et voilà, typiquement, on a clairement en tête 3 trucs qu'il faut qu'on améliore sur notre prochaine DIPA, quoi.
Justement, au niveau des recettes, c'est des recettes que vous élaborez vraiment tous ensemble?
Ouais.
Il y a tout le monde qui est intégré au process, ou comment que ça se passe?
Ouais, quoi, ouais, alors c'est... je veux dire, on parle de bière tout le temps. Donc en fait, t'es là au déj, quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai bu ça l'autre jour, c'était trop bon », c'est suffisant en fait pour nous donner des idées de recettes. La collab qu'on a faite avec Blech Brut, justement, c'est Bénédicte, un des deux fondateurs de Blech Brut, qui avait goûté une bière à la banane Billy's. Il a dit « les gars, moi, à cause du Rheinheitsgebot, je peux pas les faire chez moi en Allemagne, je veux les faire chez vous à Montpellier, on va faire une bière à la banane ». Tu vois, donc ça commence vraiment comme ça, toujours sur une idée. Les dernières bières qu'on a lancées, c'était notre première NEIPA au Blond-France français. Donc ça, c'est un truc, je veux dire, ça fait un an qu'on voulait faire ça et on devait toujours un petit peu repousser. Et là, on a eu l'opportunité de le faire. Et donc voilà, réflexion sur les houblons. Et c'était principalement Gabriel, notre brasseur ici à Paris, qui était un peu project leader là-dessus avec Cyprien. Dernier truc qu'on a lancé, on a fait une pastry sour à la myrtille, au sirop d'érable et à la vanille. L'idée, c'était simplement, on était parti des pancakes, tu vois, aux États-Unis, que tu peux te faire au brunch avec des myrtilles et du sirop d'érable, et voilà, et on a fait une bière, quoi. Donc non, voilà, toutes les suggestions de chacun et chacune sont toujours accueillies. Récemment, tu vois, on a fait travailler l'équipe de Mogio plutôt sur la partie barrique, donc en leur disant, j'en sais rien, on veut faire une saison. C'est quoi vos recommandations sur les saisons? Quel type de levure il faut qu'on utilise? Élevage de bière en barrique, en fait, ça veut tout dire, mais ça veut rien dire aussi. Et donc, quand est-ce qu'il faut qu'on fasse la primaire? Est-ce qu'on fait du mixte? Est-ce qu'on fait de la brette? Quelle souche de brette on utilise, etc. Et donc, il y a plein d'outils collaboratifs. On fait des Google Docs et on regarde les Google Docs et on s'en inspire. Et à un moment, on brasse quelque chose et on avance. Voilà. C'est assez collégial. Il faut pas oublier que c'est aussi des bières qu'il faut qu'on arrive à vendre et surtout qu'on arrive à s'inscrire dans une certaine identité. Si on part trop dans tous les sens, les gens peut-être arrivent moins à comprendre l'identité d'une brasserie, tu vois. Je pense tout de suite à l'effet papillon, bah, les bread series d'effet pape, enfin tout le monde connaît les bread series d'effet pape maintenant, et moi je suis fasciné à chaque fois que je bois n'importe quelle bière de cette série là et voilà, et on en prend à chaque fois ici au Brewpub quand ils en sortent, quoi. Voilà.
Et pour élaborer les recettes, Cyprien qui bossait dans la recherche, si je ne me trompe pas, ça doit être vraiment un atout, je pense.
Ouais, complètement. Moi, j'ai un respect, une fascination gigantesque pour mon associé et qui est hyper, hyper fort, notamment en microbiologie. Enfin, lui, il était biologiste normalien à l'origine. Il a fait de la recherche, effectivement, dans les biocarburants où il travaillait déjà avec des levures. Donc là, en fait, c'est simplement des levures qui sont un petit peu différentes et un produit final qui est peut-être un peu plus sympa à partager avec les copains, mais l'idée, c'est un petit peu la même. Et donc, effectivement, son background scientifique nous permet, je pense, d'avoir des bières d'une grande réplicabilité toute l'année. Donc, c'est bien. Enfin, n'importe qui peut faire une très bonne IPA à un moment ou à un autre, mais arriver à faire des très bonnes IPA de manière constante toute l'année, c'est autre chose. Et je pense que bah, Cyprien nous aide beaucoup. Pas que Cyprien, d'ailleurs, parce qu'en fait, dans notre équipe de brassage, on a plusieurs brasseurs et brasseuses qui ont des formations scientifiques, qui sont capables d'avoir des débats de haute volée de microbio avec Cyprien, qui sont des trucs que moi, je maîtrise pas très bien, pour le coup. On a aussi investi dans des formations, notamment sur la partie traitement de l'eau. On a fait venir un formateur irlandais qui nous a fait une formation sur le traitement de l'eau. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, notamment sur nos NEIPA, mais c'est très vrai sur les Imperial Stout. On a fait une Pils récemment ici. Et donc, évidemment, le profil d'eau est différent à chaque fois. Et donc, voilà, dans notre slogan aujourd'hui pour Fauve, c'est Craft, Science, Art. Et donc, il y a ce pilier scientifique qui est très important pour nous. Et rien n'est laissé au hasard. Et voilà, le fait qu'on va travailler avec d'autres souches de levure bientôt fait qu'en fait on va même pouvoir aller encore un cran plus loin en investissement dans un petit laboratoire et surtout on aime bien prendre les matchs les uns après les autres, donc petit à petit de manière incrémentale on améliore notre approche scientifique et qui je l'espère nous permettra de conserver, je dirais, une des choses pour lesquelles Fauve est pas mal reconnu en ce moment, c'est que en tout cas c'est des retours qu'on a régulièrement, c'est que Fauve c'est toujours bon. En fait, il n'y a jamais vraiment de gros loupés. Et voilà, donc ça, kudos à Cyprien et à toute l'équipe de prod. Ils font tous un travail exceptionnel. Et voilà, je suis hyper fier de toute l'équipe qu'on a. Et c'est grâce à eux et à elles que les gens, je pense, apprécient nos bières aujourd'hui.
Alors ça, je ne sais pas si vous le faites depuis le début de la brasserie, mais vous mettez à disposition les recettes. Ça vient d'où cette envie de partager vos recettes?
Ouais, c'est hyper simple. Cyprien et moi, on était brasseurs amateurs avant de lancer ce projet. On a fait quasiment une centaine de recettes ensemble. Et donc maintenant, on est passé brasseurs amateurs. Et c'est vrai ce qu'on... on est passé brasseur pro, autant pour moi. Il se trouve qu'on avait une frustration en tant que brasseur amateur, c'est que très souvent, une recette, c'est juste une petite page A5 avec le malbill et peut-être trois consignes rapides sur la fermentation et les trucs où il faut faire un petit peu attention. Et on a décidé d'aller, non pas un cran plus loin, mais d'aller vraiment beaucoup plus loin pour essayer de partager tout ce qu'on a appris, nous, en tant que brasseur pro, avec un maximum de gens. Enfin, ça se fait beaucoup dans d'autres domaines, notamment dans la tech, avec toute la partie open source. Nous, on considère qu'on est un peu open source sur nos recettes. Donc, on a fait, je crois qu'on a publié une dizaine de recettes sur notre site internet. Et puis, donc, pour tous les brasseurs amateurs et brasseuses amateurs qui écoutent, on rentre vraiment dans les détails, autant sur des bières houblonnées que des bières aux fruits, où on explique comment on travaille les fruits, que sur des Imperial Stout, tous les styles de bière qu'on fait aujourd'hui, et ça nous prend pas mal de temps. J'espère que ça vous sera utile. Puis celles et ceux qui brassent des bières qui sont des clones de certaines de nos recettes, n'hésitez pas à venir nous voir à Paris ou à Montpellier, et on fera des dégustations comparatives. Ça nous est déjà arrivé et c'est un exercice qui est hyper chouette. Honnêtement, c'est beaucoup plus dur de faire une bonne bière en brasseur amateur qu'en brasseur professionnel, puisque évidemment nous on maîtrise tous les paramètres. Enfin, si on veut faire monter à 19,4, on peut faire monter à 19,4, ce qui est plus compliqué à faire chez soi, mais on a vraiment à chaque fois des bonnes surprises avec des bières qui sont hyper hyper bonnes. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, on essaie d'en faire d'autres. Donc là c'est un de nos sujets en ce moment avec l'équipe de prod, de s'attaquer à deux ou trois recettes en plus, donc ça devrait sortir bientôt, mais c'est des choses qui prennent beaucoup beaucoup de temps. Donc voilà, on essaiera de le faire au maximum, peut-être qu'on fera un bouquin à un moment avec plein de couleurs, c'est pas prévu du tout. Je suis pas en train de faire une annonce, mais j'adorerais qu'on le fasse. Ouais, on aime bien mettre bien les choses en page. Enfin, il y a toujours une feuille A4 qui est une sorte de résumé de ce qu'on fait, que vous pouvez imprimer, et puis après pour ceux qui veulent rentrer dans les détails, et pour le coup il y a 10 pages de détails sur chacune des recettes, quoi. Donc si, peut-être qu'on en fera un bouquin,
pourquoi pas. C'est vrai que l'idée est pas mal, je trouve. Bah, si on veut rencontrer l'équipe de Fauve, soit on vient au Brewpub rue de Charonne, ou sinon sur les festivals qui vont venir.
Exactement, ouais. Alors soit au Brewpub, donc 64 rue de Charonne, dans le 11e arrondissement de Paris. Faut pas oublier, à Montpellier aussi, la brasserie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h, et vous pouvez venir rencontrer toute l'équipe de prod là-bas sur place. Et puis bah, cette année, c'est trop bien, parce qu'on va faire un peu le tour de la France, et donc on sera vraiment ravis de... Bah, je serai ravi de rencontrer tous les auditeurs et toutes les auditrices du podcast Bière et Moustache, moi et puis toute l'équipe de Fauve, puisqu'on va tous se répartir les festivals. Donc il y aura toujours un brasseur ou une brasseuse, probablement Cyprien ou moi à chaque fois, et puis toute l'équipe ici de Paris aussi autour de moi qui participera à ces chouettes événements. On a vraiment hâte d'y être.
Bah, merci Antoine de m'avoir reçu aujourd'hui, et puis bah, merci aussi Cyprien, même s'il n'était pas là physiquement, il était là avec nous en pensée.
Bah, super, merci beaucoup Benoît, salut, à bientôt.
Non mais laissez-moi enlever ma moustache. Et pensez à nous soutenir, où vous voulez.